Chapitre 7. Arrivée des tantes et des oncles. Les Dodson étaient certainement une belle famille, et Madame Glegg n'était pas la moins belle des sœurs. En la voyant assise dans le fauteuil de Madame Talleva, aucun observateur impartial n'aurait nié que pour une femme de 50 ans, elle n'eût une tournure et un visage très agréables, quoique Tom et Maggie considérassent leur tante Glegg comme le type de la laideur. Il est vrai qu'elle méprisait les ressources du costume, car ainsi qu'elle le faisait observer souvent, quoiqu'aucune femme ne possédât de meilleurs vêtements qu'elle, ce n'était pas son habitude de porter ses affaires neuves avant les vieilles. D'autres personnes, si cela leur convenait, pouvaient mettre leurs plus belles dentelles de fil habituellement. Mais quand Madame Glegg mourrait, on trouverait qu'elle en possédait du plus beau dessin, renfermée dans le tiroir à main droite de son armoire, dans sa chambre, que Madame Wool de Saint-Ox n'en avait jamais de sa vie acheté, quoique Madame Wool portât ses dentelles avant de les avoir payées. Il en était de même de ses tours de cheveux. Indubitablement, Madame Glegg conservait les boucles brunes les plus lustrées et les mieux frisées dans ses tiroirs, ainsi que des boucles à différents degrés de souplesse et d'allongement. Mais mettre un jour ouvrable, un tour lustré et frisé, serait introduire la confusion la plus fâcheuse entre le sacré et le profane. Dans quelques occasions, il est vrai, Madame Glegg portait un de ses meilleurs tours en visite dans le courant de la semaine, mais pas chez une sœur, surtout pas chez Madame Talleva, qui, depuis son mariage, avait grièvement blessé les sentiments de sa sœur en gardant ses propres cheveux. Quoique, ainsi que le faisait observer Madame Glegg à Madame Dean, de la part d'une mère de famille comme Bessie, dont le mari était toujours en procès, on aurait pu s'attendre à quelque chose de mieux. Mais Bessie avait toujours été si faible. Donc, si le tour de cheveux de Madame Glegg était aujourd'hui moins fourni et moins frisé que de coutume, il y avait une intention. C'était une préparation à des allusions vives et tranchantes au sujet des masses de boucles blondes de Madame Talleva. Celle-ci avait versé plus d'une larme sur la malveillance de sœur Glegg pour ses boucles, considérée comme peu maternelle. Mais la conviction intime de paraître plus belle ainsi lui apportait naturellement une consolation. Madame Glegg se décida à garder ce jour-là dans la maison son chapeau détaché et rejeté en arrière, habitude fréquente chez elle quand elle était en visite et se trouvait être d'une humeur sévère. Elle ne savait pas quel courant d'air il pouvait y avoir dans une maison étrangère. Pour la même raison, elle portait une petite pèlerine noire qui couvrait juste ses épaules et était loin de croiser sur sa poitrine bien développée, tandis que son long cou était protégé par une collerette en guise de chevaux de frise. Il faudrait être versé dans la connaissance des modes de cette époque pour savoir de combien la robe de soie ardoise de Madame Glegg devait être arriérée. Mais, à en juger par certaines constellations de petits points jaunes et une odeur de moisissure indiquant une garde-robe humide, il est probable qu'elle faisait partie d'une couche de vêtements assez vieux pour avoir le droit d'être produit au jour. Madame Glegg tenait à la main sa grosse montre d'or avec la chaîne à plusieurs rangs enroulée autour de ses doigts et fit observer à Madame Talleva, qui venait de rentrer d'une visite à la cuisine, que, quoi qu'il pût en être des pendules ou des montres des autres, il était midi passé à la sienne. « Je ne sais ce qui retient Sir Pallet, » continua-t-elle. « C'était l'usage de notre famille que l'un arrivât aussitôt que l'autre. Je suis sûr qu'il en était ainsi du temps de mon pauvre père, et qu'une sœur n'avait pas à attendre une demi-heure avant que les autres vinssent. Mais si les coutumes de ma famille doivent changer, ce ne sera pas ma faute. Ce n'est pas moi qui viendrai jamais dans une maison au moment où les autres s'en vont. Je suis étonné de Sir Dean. » Elle me ressemblait davantage ordinairement. Mais si vous suivez mon conseil, Bessie, vous avancerez un peu le dîner plutôt que de le retarder, parce que les gens qui sont en retard doivent en supporter les conséquences. En vérité, ne craignez point qu'ils ne soient pas tous là à temps, sœur, dit Madame Talleva d'un ton à moitié chagrin. Le dîner ne sera pas prêt avant 1h30. Mais si c'est trop longtemps à attendre pour vous, laissez-moi aller vous chercher un biscuit et un verre de vin. « Bien, Bessie, » dit Madame Glegg avec un sourire amer et un mouvement de tête à peine visible, « j'aurais pensé que vous connaissiez mieux votre sœur. Je n'ai jamais mangé entre mes repas, et je ne vais pas commencer. Ce n'est pas que je déteste cette ridicule idée d'avoir votre dîner à 1h30, quand vous pourriez l'avoir à 1h. Vous n'avez point été élevée à cela, Bessie. Mais, Jane, que puis-je faire? Monsieur Tallevan n'aime pas à dîner avant 2h, et je l'ai avancé d'une demi-heure à cause de vous. Oui, je sais comment cela va avec les maris. Ils sont pour tout déranger. Ils renverront le dîner jusqu'après le thé s'ils ont des femmes assez faibles pour y consentir. Mais c'est dommage pour vous, Bessie, que vous n'ayez pas plus de force d'esprit. Ce sera heureux si vos enfants n'en souffrent pas. Et j'espère que vous n'avez pas été faire un grand dîner pour nous et vous mettre en frais de dépenses pour vos sœurs, qui aimeraient mieux manger une croûte de pain sec que d'aider à vous ruiner par extravagance. Je m'étonne que vous ne preniez pas modèle sur votre sœur Dean. Elle est bien plus sensée. Et ici, vous avez à pourvoir à 2 enfants. Votre mari a dépensé votre fortune en procès, et il est probable qu'il dépensera aussi la sienne. Un gigot bouilli dont vous pourriez faire du bouillon pour la cuisine, ajouta Madame Glegg d'un ton de protestation énergique, et un simple pudding avec une cuillerée de sucre et point de parfum serait beaucoup plus convenable. Avec Sir Glegg de cette humeur-là, la perspective de la journée était peu gaie. Madame Tallevan ne se hasardait jamais à se disputer avec elle, pas plus qu'une poule d'eau qui étend la patte d'une manière suppliante ne peut être accusée de se quereller avec un garçon qui lui jette des pierres. Mais ce sujet du dîner était un point délicat et pas du tout neuf, en sorte que Madame Tallevan put faire la réponse qu'elle avait déjà souvent faite. Monsieur Tallevan dit qu'il veut toujours avoir un bon dîner pour ses amis tant qu'il pourra le payer, répondit-elle. Et il a le droit d'agir comme il lui plaît dans sa propre maison, ma sœur. Eh bien, Bessie, je ne puis laisser assez de mes épargnes à vos enfants pour les empêcher d'être ruinés. Et il ne faut pas vous attendre à rien avoir de l'argent de M. Glegg. C'est beaucoup si je ne meurs pas la première, car il vient d'une famille où l'on vit vieux. Et s'il venait à mourir et à me laisser à l'aise pendant ma vie, il arrangerait bien des choses pour que tout l'argent retournât à ses propres parents. Le bruit des roues, tandis que Madame Glegg parlait, fut une interruption des mieux venus pour Madame Tallevan, qui sortit à la hâte pour recevoir Sir Pallet. Ce devait être sa sœur Pallet, car c'était le bruit d'une voiture à 4 roues. Madame Glegg secoua la tête, et sa bouche prit une expression un peu aigre à l'idée des 4 roues. Elle avait son opinion très arrêtée à ce sujet. Madame Pallet était en pleurs, quand l'unique cheval de la voiture à 4 roues s'arrêta devant la porte, et il était apparemment nécessaire qu'elle versât encore quelques larmes avant d'en sortir, car bien que son mari et Madame Tallevan se tinssent prêts à la soutenir, elle restait assise et secouait tristement la tête en regardant vaguement à distance au travers de ses larmes. « Mais qu'y a-t-il, ma sœur ? » dit Madame Tallevan. Ce n'était pas une femme d'imagination. Mais il lui vint à l'esprit que le grand miroir de toilette de la plus belle chambre à coucher de Sir Pallet pouvait s'être brisé pour la seconde fois. Il n'y eut d'autre réponse qu'un nouveau mouvement de tête, tandis que Madame Pallet se levait lentement de la calèche, non sans lancer un regard à M. Pallet pour voir s'il préservait sa belle robe de soie de quelque malheur. M. Pallet était un homme au nez proéminent, aux petits yeux clignotants, aux lèvres minces, au costume noir paraissant neuf, avec une cravate blanche qui avait été attachée très serrée, d'après quelques principes plus rigides que celui du bien-être personnel. Il était à sa grande et belle femme, aux manches à gigot, à la robe ample et au grand chapeau enrubanné et emplumaché, dans le même rapport qui existe entre un petit bateau pêcheur et un brick toute voile dehors. C'est une observation intéressante et un exemple frappant de la complexité introduite dans les émotions par un état de haute civilisation, que la vue d'une femme dans la douleur sous un costume élégant. De la tristesse d'une hottentote à celle d'une femme aux bras chargés de bracelets, attifée, coiffée d'un chapeau architectural et enrubanné, quelle longue série de degrés! Chez l'enfant d'une civilisation éclairée, le laisser-aller caractéristique de la douleur est arrêté et modifié d'une manière assez subtile pour présenter un problème intéressant à l'esprit d'analyse. Si cette femme au cœur brisé et aux yeux à moitié aveuglés par un nuage de larmes devait marcher d'un pas trop chancelant à l'entrée d'une porte, elle pourrait froisser ses manches bouffantes. Mais la conscience de cette possibilité lui donne les forces à l'aide desquels elle sait éviter ce danger. S'apercevant que ses larmes sont abondantes, elle détache ses brides et les rejette languissamment en arrière, geste qui indique, même dans la plus profonde affliction, l'espoir d'un avenir où les brides de chapeau pourront offrir un nouveau charme. Quand les larmes s'arrêtent un peu et qu'elle arrive à ce terrible moment où la douleur, qui a rendu toute chose fatigante, devient elle-même une fatigue, elle regarde pensivement ses bracelets et en ajuste les fermoirs avec cette négligence coquette qu'il sera agréable de retrouver plus tard dans un état d'esprit plus calme. Madame Palette opéra le passage des portes avec une grande délicatesse, malgré la largeur de ses épaules. À cette époque, une femme aurait été en contravention ridicule avec la mode si elle n'avait mesuré bien plus d'un mètre d'une épaule à l'autre. Après quoi elle remit les muscles de son visage en quête de nouvelles larmes, en s'avançant dans le salon où Madame Glegg attendait. « Eh bien, ma sœur, vous arrivez tard. Que se passe-t-il » dit Madame Glegg un peu sèchement, comme elle se touchait la main. Madame Palette s'assit, relevant avec soin son manteau derrière elle avant de répondre. « Elle est partie », employant sans s'en douter une expressive figure de rhétorique. « Ce n'est donc pas le miroir, cette fois, » pensa Madame Taleva. « Morte avant-hier, » continua Madame Palette, « et ses jambes étaient aussi grosses que mon corps, » ajouta-t-elle après une pause de profonde tristesse. « On lui a fait la ponction un nombre inouï de fois. Que d'eau ! On dit qu'on aurait pu y nager si l'on avait voulu. » « Eh bien, Sophie, c'est très heureux pour elle d'être morte alors, qui qu'elle soit, » dit Madame Glegg avec la promptitude et l'énergie d'un esprit naturellement clair et décidé. « Et pour ma part, je ne puis comprendre de qui vous parlez. » « Mais moi, je le sais, » dit Madame Palette, en soupirant et secouant la tête, « et il n'y a jamais eu une hydropisie semblable dans la paroisse. Je parle de la vieille Madame Sutton des Twentylands. » « Bien, mais elle n'était pas votre parente, c'était à peine une connaissance. Je n'en ai jamais entendu parler, » dit Madame Glegg, qui ne pleurait que juste autant que c'était convenable quand quelque chose arrivait à quelqu'un de ses propres parents, mais pas à d'autres occasions. Elle est si bien de ma connaissance que j'ai vu ses jambes quand elles étaient comme des vessies. C'était une vieille dame qui a doublé sa fortune je ne sais combien de fois et qui en a gardé la direction jusqu'au dernier moment et qui avait constamment sa poche et ses clés sous son oreiller. Il n'y en a pas beaucoup dans la paroisse comme elle, je le crains. Et on dit qu'elle a pris assez de médecine pour en remplir un fourgon, observa M. Palette. Ah, soupira Mme Palette. Elle avait une autre maladie depuis bien des années avant son hydropisie, et les docteurs n'ont pu découvrir ce que c'était. Et elle me dit, quand j'allais la voir au dernier Noël, « Madame Palette, me dit-elle, si vous devenez jamais hydropique, vous penserez à moi. » « Elle me l'a dit, » ajouta Madame Palette, recommençant à pleurer amèrement. Ce furent ses propres paroles, et on doit l'ensevelir samedi, et Palette est invitée aux funérailles. « Sophie, je m'étonne que vous vous tourmentiez et que vous gâtiez votre santé pour des gens qui ne vous sont rien. Votre pauvre père n'a jamais fait ainsi, ni votre oncle Francis, ni personne de la famille, à ma connaissance. Vous ne pourriez vous lamenter plus que cela si nous apprenions que notre cousin Abbott fut mort soudainement sans avoir fait son testament. » Madame Palette garda le silence, n'ayant pas fini de pleurer, et plutôt flattée que mécontente d'être admonestée pour verser trop de larmes. Chacun n'était pas capable d'en répandre autant pour des voisins qui ne lui laissaient rien. Mais Madame Palette avait épousé un propriétaire de terre et avait le temps et l'argent nécessaires pour mettre du luxe dans sa douleur comme en toute autre chose. « Madame Sutton n'est point morte sans faire son testament, » dit M. Palette, avec le sentiment confus de dire quelque chose pour justifier les larmes de sa femme. Notre paroisse est riche, mais on dit qu'il n'y a personne qui puisse laisser après soi autant de 1000 livres que Madame Sutton. Elle ne fait aucun legs dont on puisse parler. Elle laisse le tout en bloc à un neveu de son mari. Il n'y avait pas grand profit à ce qu'elle fût si riche alors, dit Madame Glegg, si elle n'a personne que les parents de son mari à qui laisser son argent. C'est une triste affaire de n'avoir que ce motif de s'imposer des privations. Non pas que je sois de ceux qui aimeraient mourir sans laisser plus d'argent placé que les autres ne le supposent, mais c'est une pauvre histoire, quand cela doit sortir de votre propre famille. « Je suis sûr, ma sœur, dit Madame Pallet, qui s'était assez remise pour ôter son voile et le plier avec soin, que c'est une très aimable espèce d'homme que celui auquel Madame Sutton a laissé son argent, car il souffre d'un asthme, et il est obligé de se coucher tous les soirs à 8 heures. Il me l'a dit lui-même, aussi franchement que possible, un dimanche qu'il est venu à notre église. Il porte une peau de lièvre sur la poitrine, et il a un tremblement dans la voix. Un homme tout à fait comme il faut. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mois dans l'année où je ne fusse entre les mains des docteurs. Et il m'a répondu, « Madame Pallet, je me mets à votre place, je vous plains. » Voilà ce qu'il a dit, ce sont ses propres paroles. « Ah !» ajouta Madame Pallet en soupirant, et secouant la tête à l'idée qu'il n'y avait que peu de personnes qui pussent comprendre son expérience en fait de mixtion rose et de mixtion blanche, de choses fortes dans de petites fioles et de choses faibles dans de grandes bouteilles, de potions liquides à 1 shilling et de gouttes à 30 sous. « Ma sœur, je ferais aussi bien à présent d'aller ôter mon chapeau. Avez-vous vu si l'on avait sorti de la voiture la boîte à bonnet ? » ajouta-t-elle en se tournant vers son mari. Monsieur Pallet, par un manque de mémoire inconcevable, l'avait oublié. Il sortit à la hâte, la conscience tourmentée, pour réparer cet oubli. « On la montra là-haut, ma sœur, dit Madame Taleva, désirant sortir sans retard, dans la crainte que Madame Glegg ne voulût commencer à expliquer ses sentiments sur ce que Sophie était la première Dodson qui eût jamais gâté sa santé avec des drogues de docteur. Madame Taleva désirait monter avec Madame Pallet pour examiner en détail le chapeau de celle-ci, avant qu'elle le mît sur sa tête et pour parler mode. C'était un des côtés de la faiblesse de Bessie qui émouvait la compassion de sa sœur Glegg. Elle trouvait que Bessie s'habillait beaucoup trop bien, et Bessie était trop fière pour habiller ses enfants des bonnes étoffes que sa sœur Glegg sortait du fond primitif de sa garde-robe pour les lui donner. N'était-ce pas une honte d'acheter pour habiller sa fille Maggie autre chose qu'une paire de souliers? À cet égard, toutefois, Madame Glegg ne rendait pas justice à sa sœur Bessie, car Madame Taleva avait déjà fait de grands efforts pour engager Maggie à porter un chapeau de paille et une robe de soie teinte en vert, taillée dans une robe de Madame Glegg. Mais les résultats avaient été tels que Madame Taleva dut les ensevelir au fond de son cœur maternel. Car Maggie, affirmant que la robe sentait la mauvaise teinture, saisit l'occasion de l'arroser en même temps que le roast beef le premier dimanche qu'elle la porta. Et trouvant le moyen bon, elle inonda plus tard sous la pompe le chapeau et ses rubans verts, de manière à le faire ressembler à un fromage à la sauge entouré de laitue flétrie. Je dirais, pour excuser Maggie, que Tom s'était moqué d'elle en disant qu'avec ce chapeau elle ressemblait à une vieille juive. La tante Pallet aussi faisait présent de vêtements, mais ceux-ci étaient toujours assez jolis pour plaire à Maggie comme à sa mère. De toutes ses sœurs, Madame Taleva préférait certainement sa sœur Pallet, et c'était réciproque. Mais Madame Pallet regrettait que Bessie eût des enfants gauches et désagréables. Elle ferait du mieux qu'elle pourrait pour eux, mais c'était dommage qu'ils ne fussent pas aussi jolis et aussi sages que l'enfant de sœur Dean. Maggie et Tom, de leur côté, trouvaient leur tante Pallet supportable, principalement parce que ce n'était pas leur tante Glegg. Tom refusait toujours d'aller plus d'une fois pendant les vacances voir l'une d'elles. Ses deux oncles, naturellement, lui garnissaient les poches à cette occasion, mais chez sa tante Pallet, il y avait à l'entrée des caves une grande quantité de crapauds à attraper, en sorte qu'il préférait aller en visite chez elle. Maggie frémissait à l'idée des crapauds et en rêvait horriblement, mais elle aimait la boîte à musique de l'oncle Pallet. Cependant, en l'absence de Madame Taleva, les sœurs s'accordèrent à trouver que le sang Taleva ne se mêlait pas bien avec le sang Dodson, qu'en fait les enfants de la pauvre Bessie étaient Taleva et que Tom, quoiqu'il eût le teint Dodson, serait probablement aussi contrariant que son père. Quant à Maggie, c'était le portrait de sa tante Moss, la sœur de M. Taleva, une grande femme osseuse qui s'était mariée aussi pauvrement que possible. Elle n'avait point de porcelaine et son mari payait difficilement ses fermages. Mais quand Madame Pallet fut seule à l'étage supérieur avec Madame Taleva, les remarques furent naturellement au désavantage de Madame Glegg, et elles se dirent en confidence qu'on ne pouvait savoir quelle espèce d'épouvantail serait bientôt Sir Jane. Leur tête-à-tête fut coupé court par l'arrivée de Madame Dean avec la petite Lucy, et Madame Tulliver regarda avec un serrement de cœur les boucles blondes de sa nièce. Il était tout à fait mortifiant que Madame Dean, la plus maigre et la plus pâle de toutes les Miss Dodson, eut cette fille que l'on aurait pu prendre pour celle de Madame Tulliver sous quelques jours qu'on la vit. Et Maggie paraissait toujours deux fois plus noire que de coutume quand elle était à côté de Lucy. Ce fut bien le cas quand elle et Tom rentrèrent du jardin avec leur père et leur oncle Glegg. Maggie avait jeté son chapeau, et entrant avec ses cheveux raides, en désordre et sans boucle, elle se précipita vers Lucy, qui était assise près de sa mère. Certainement, le contraste entre les cousines était évident, et pour un observateur superficiel, tout au désavantage de la première, quoiqu'un connaisseur eût pu voir en elle des signes qui promettaient bien plus pour sa maturité que la perfection native de Lucy. C'était la différence qu'il y a entre un jeune chien noir et rustique et une petite chatte blanche. Lucy avança une petite bouche délicate, semblable à un bouton de rose. Tout en elle était délicat. Son petit cou arrondi, entouré d'un rang de grains de corail, son nez régulièrement droit et nullement épaté. Ses légers sourcils clairs, un peu plus foncés que ses boucles de cheveux, et protégeant des yeux bruns clairs, qui regardaient avec un timide plaisir Maggie, plus grande de la tête, quoiqu'ayant à peine une année de plus. Maggie contemplait toujours Lucy avec délice. Elle aimait à se figurer un monde où les gens ne devenaient jamais plus grands que les enfants de leur âge, et elle en supposait la reine tout à fait semblable à Lucy, avec une petite couronne sur la tête et un petit sceptre à la main. Seulement, la reine était Maggie elle-même, sous la forme de Lucy. « Oh, Lucy !» s'écria-t-elle après l'avoir embrassée. « Tu resteras avec Tom et moi, n'est-ce pas ? Oh, embrasse-la, Tom !» Tom aussi était venu vers Lucy, mais non pour l'embrasser, non. Il était venu vers elle avec Maggie, parce que cela lui semblait plus facile, après tout, que de dire « Comment vous portez-vous » à tous les oncles et à toutes les tantes. Il restait là, le regard errant, avec la rougeur, l'air gauche et le demi-sourire particulier aux garçons timides en compagnie, comme s'ils étaient venus dans ce monde par mégarde, et qu'ils l'eussent trouvé dans un déshabillé tout à fait embarrassant pour leur candide regard. « Eh bien, » dit tante Glegg avec emphase, « est-ce que les petits garçons et les petites filles entrent dans une chambre sans faire attention à leurs oncles et à leurs tantes ? Ce n'était pas l'usage quand j'étais jeune. « Allez parler à vos oncles et à vos tantes, mes chéris, » dit Madame Tulliver d'un air triste et inquiet. Elle désirait donner à voix basse à Maggie l'ordre d'aller faire brosser ses cheveux. « Bien, et comment vous portez-vous ? J'espère que vous êtes des enfants sages, n'est-ce pas ? » dit tante Glegg du même ton élevé, en leur serrant la main, en leur faisant mal avec ses grosses bagues et en les embrassant sur les joues, ce qui leur plaisait très peu. « Levez la tête, Tom, levez la tête. Les garçons qui vont en pension doivent tenir la tête haute. Regardez-moi donc !» Tom ne tenait pas à ce plaisir apparemment, car il chercha à retirer sa main. « Mettez vos cheveux derrière vos oreilles, Maggie, et gardez votre robe sur vos épaules. » Tante Glegg leur parlait toujours de cette voix haute et accentuée, comme si elle les supposait sourds ou à peu près imbéciles. C'était un moyen, pensait-elle, de leur faire sentir qu'ils étaient des êtres responsables, et ce pouvait être un frein salutaire à de mauvaises dispositions. Les enfants de Bessie étaient si gâtés, ils avaient besoin de quelqu'un qui leur fît sentir leur devoir. « Eh bien, mes chéris, » dit tante Pallet d'un ton de compassion, « vous grandissez étonnamment vite. Je crains qu'ils ne grandissent trop pour leur force, » ajouta-t-elle en regardant leur mère par-dessus leurs épaules avec une expression mélancolique. « Je crois que votre fille a trop de cheveux. Je les éclaircirais et je les couperais plus courts si j'étais vous. Ce n'est pas bon pour sa santé. » « C'est ce qui lui rend la peau si brune. Cela ne m'étonnerait pas. Ne le pensez-vous pas, sœur Dean ?»« Je ne puis dire que j'en sois sûr, » dit Madame Dean, en pinçant de nouveau les lèvres et regardant Maggie d'un œil critique. « Non, non, » dit Monsieur Tulliver. « La santé de l'enfant est assez bonne. Rien ne lui fait mal. Il y a du froment rouge aussi bien que du blanc, et quelques personnes préfèrent le grain foncé. Mais il serait aussi bien que Bessie fît couper les cheveux de l'enfant. » pour qu'ils fussent plus unis. Une terrible résolution fomentait dans le sein de Maggie. mais elle était arrêtée par le désir de savoir de sa tante Dean si elle permettrait que Lucy restât près d'elle. Tante Dean ne laissait presque jamais Lucy venir la voir. Après plusieurs raisons de refus, Madame Dean en appela Lucy elle-même. « Tu n'aimerais pas rester sans ta mère, n'est-ce pas, Lucy ?»« Mais si, s'il vous plaît, maman, » dit Lucy timidement, en rougissant, et son petit cou devint tout rose. « Bien, Lucy, laissez-la rester, Madame Dean, laissez-la rester, » dit Monsieur Dean, homme grand, mais à l'air vif, avec un type de physionomie que l'on peut voir dans tous les rangs de la société anglaise. Le crâne chauve, les favoris roux, le front développé et une solidité générale sans lourdeur. Vous pouvez trouver des gentilshommes comme Monsieur Dean et des épiciers ou des ouvriers à la journée qui lui ressemblent. Mais la vivacité de ses yeux n'est pas si commune que son galbe. Il tenait serré dans sa main une tabatière d'argent, et de temps en temps il échangeait une prise avec Monsieur Tanleva, dont la tabatière était seulement montée en argent, en sorte que c'était une plaisanterie habituelle entre eux que Monsieur Tanleva désirât aussi échanger les tabatières. Celle de Monsieur Dean lui avait été donnée par les chefs de la maison dont il faisait partie, en même temps qu'il lui avait accordé une part dans les affaires, pour reconnaître ses estimables services comme gérant. Aucun homme n'était plus considéré que Monsieur Dean à St. Ogg's, et même quelques personnes étaient de l'opinion que Miss Susan Dodson, qui était censée avoir fait le plus mauvais mariage de toutes les sœurs Dodson, pourrait bien un jour avoir une meilleure voiture et vivre dans une meilleure maison que sa sœur Palette elle-même. On ne pouvait savoir où s'arrêterait un homme qui était entré dans la possession d'un grand moulin, dans une affaire d'armateur comme celle de Guest et compagnie, et qui de plus avait un intérêt dans une maison de banque. Madame Dean, au dire de ses intimes amies, était fière et assez tenace. Elle ne laisserait pas son mari s'arrêter en si beau chemin, faute de l'éperonner. « Maggie, » dit Madame Tanleva, en faisant signe à sa fille de venir et lui parlant bas à l'oreille aussitôt que la question du séjour de Lucy fut décidée. « Va faire brosser tes cheveux. Vas-y, c'est honteux. Je t'avais dit de ne pas entrer sans être allé auparavant vers Marthe. Tu sais que je te l'avais dit. « Viens avec moi, Tom, » chuchota Maggie en tirant celui-ci par sa manche, comme elle passait près de lui, et Tom la suivit assez volontiers. « Viens là-haut avec moi, » lui dit-elle à voix basse, quand ils furent sortis. « Je désire arranger quelque chose avant dîner. »« Mais il n'y a pas le temps d'organiser le jeu avant le dîner, » dit Tom, dont l'imagination se refusait à tout projet jusqu'à l'heure du repas. « Aussi, il y a du temps pour ça. Viens donc, Tom. » Tom suivit Maggie en haut dans la chambre de leur mère. Là, Maggie se dirigea résolument vers un tiroir dont elle sortit une paire de grands ciseaux. « Qu'en veux-tu faire, Maggie ? » dit Tom, sentant sa curiosité éveillée. Maggie répondit en saisissant ses mèches de devant et en les coupant droit en travers du front. « Oh bien, dis donc, Maggie, qu'est-ce que tu vas prendre ? » s'écria Tom. « Tu ferais mieux de ne pas en couper davantage. » Crac, crac, continuèrent les grands ciseaux, pendant que Tom parlait. Et il ne put s'empêcher de trouver que c'était un bon amusement. Maggie aurait un air si ridicule. « Tiens, Tom, coupe ceux de derrière pour moi, » dit Maggie, excitée par sa propre audace et impatiente d'en finir. « Tu t'en repentiras, tu sais, » dit Tom en secouant la tête en manière d'avertissement et hésitant un peu en prenant les ciseaux. « C'est égal, fais vite, » dit Maggie, en frappant des pieds et les joues en feu. Les mèches noires étaient si épaisses que rien ne pouvait être plus engageant pour un garçon qui avait déjà goûté le plaisir défendu de couper la crinière du poney. Je parle à ceux qui connaissent la satisfaction de faire crier une paire de ciseaux au travers d'une masse de cheveux bien résistante. Un délicieux coup grinçant, puis un autre, et les mèches de derrière tombèrent lourdement sur le plancher, et Maggie se trouva fauchée d'une manière dentelée et inégale. Mais avec un sentiment de légèreté et de liberté, comme si elle sortait d'un bois pour entrer dans la plaine. « Oh, Maggie, » dit Tom en sautant autour d'elle, en riant et se frappant les genoux. « Oh, quel air bizarre tu as. Regarde-toi dans le miroir. Tu ressembles à l'idiot à qui nous jetons les coquilles de noix à l'école. » Maggie sentit un serrement de cœur inattendu. Elle avait pensé d'abord à sa propre délivrance de ses ennuyeux cheveux et des ennuyeuses remarques dont ils étaient le sujet. Puis ensuite au triomphe qu'elle remporterait sur sa mère et ses tantes par cette manière d'agir décidée. Elle ne tenait pas à ce que ses cheveux fussent jolis. C'était hors de question. Elle désirait surtout que les gens la crussent une petite fille intelligente et ne la trouvassent point en faute. Mais maintenant que Tom commençait à rire d'elle et à dire qu'elle ressemblait à l'idiot, l'affaire prit un tout autre aspect. Elle se regarda dans le miroir, et comme Tom continuait à rire et à battre des mains, les joues enflammées de Maggie commencèrent à pâlir et ses lèvres à trembler un peu. « Oh, Maggie, il te faudra bientôt descendre pour dîner, » dit Tom. « Quel air !»« Ne te moque pas de moi, Tom, » dit-elle d'un ton de colère, les larmes jaillissantes, en frappant du pied et repoussant son frère. « Allons donc, Miss Fusée, » dit Tom. « Pourquoi les as-tu coupées, alors ? Je descends, moi. Je sens l'odeur du dîner qu'on apporte. » Il descendit à la hâte l'escalier et laissa la pauvre Maggie livrée à l'amer sentiment de l'irrévocable, qui était presque une expérience de chaque jour pour sa jeune âme. Elle voyait assez clairement, maintenant que la chose était faite, que c'était une grande sottise, et qu'elle aurait à entendre plus de remarques que jamais sur ses cheveux. Maggie se livrait à ses actions avec une impulsion passionnée, et ensuite voyait non seulement leurs conséquences, mais aussi ce qui serait arrivé si elle ne les eût pas commises, et cela avec tous les détails et toutes les circonstances exagérées par une imagination vive. Tom ne faisait jamais de fautes de la même espèce que celle de Maggie. Il avait un discernement étonnant et instinctif de ce qui tournerait à son avantage ou à son désavantage, et il arrivait ainsi que, quoiqu'il fût beaucoup plus volontaire et inflexible que sa sœur, sa mère ne l'appelait presque jamais méchant. Mais si Tom faisait quelques sottises de ce genre, il l'acceptait en soutenant qu'il ne l'avait pas fait exprès. S'il cassait le fouet de son père en fouettant la porte, il n'y pouvait rien. Le fouet n'avait qu'à ne pas s'engager dans les gonds. Si Tom Taleva fouettait une porte, il était convaincu non que de fouetter les portes fût une action justifiable pour tous les garçons, mais que lui, Tom Taleva, était excusable de frapper cette porte-là, et il ne se repentait pas de l'avoir fait. Mais Maggie, en restant à pleurer devant le miroir, jugeait impossible de pouvoir descendre pour le dîner, de supporter les regards et les paroles sévères de ses tantes, tandis que Tom, Lucy et Marthe qui servaient à table, et peut-être son père et ses oncles, riraient d'elle. Car puisque Tom s'était moqué d'elle, naturellement tout le monde le ferait aussi. Si elle avait seulement laissé ses cheveux tranquilles, elle aurait pu s'asseoir entre Lucy et Tom, manger du flan et du pudding aux abricots. Elle ne pouvait plus que sangloter, et restait aussi désespérée et abandonnée, assise au milieu de ses mèches noires, qu'Ajax au milieu des brebis égorgées. Elle paraîtra bien puérile, peut-être, cette angoisse aux mortels déjà usés par les années, et qui ont à penser aux échéances de Noël, à leurs amours éteintes, à leurs amitiés brisées. Mais elle n'était pas moins amère pour Maggie, peut-être plus amère, que ce que nous aimons à appeler, par antithèse, les vrais chagrins de l'âge mûr. Ah, mon enfant, vous aurez de vrais chagrins plus tard pour vous tourmenter. Telle est la consolation qui nous a été offerte presque à tous dans notre enfance, et que nous avons répétée à d'autres enfants depuis que nous sommes grands. Nous avons sangloté tout aussi piteusement, debout et immobile sur nos petites jambes, quand nous avions perdu de vue, dans quelque endroit inconnu, notre mère ou notre bonne. Mais nous ne pouvons plus nous rappeler la douleur poignante de ce moment et en pleurer, comme nous le faisons au souvenir des souffrances des 5 ou 6 dernières années. Chacun de ces durs moments a laissé sa trace et vit encore en nous. Mais de telles traces se sont irrévocablement recouvertes du tissu plus ferme de notre jeunesse et de notre âge mûr. Et de là vient que nous pouvons nous rappeler les chagrins de notre enfance avec un sourire de pitié sur la réalité de leur douleur. Y a-t-il quelqu'un chez qui les scènes de son enfance soient encore assez vives pour qu'il puisse se souvenir de ce qu'il a dit ou fait, aimé ou haï, quand il était en sarrau, et cela avec le sentiment réel de ce qu'il éprouvait alors, lorsqu'un été lui semblait si éloigné d'un autre? Peut-il se reporter au moment où ses camarades d'école le bannissaient du jeu parce qu'il jetait mal la balle par simple ignorance, ou lorsqu'un jour de pluie pendant les vacances, ne sachant comment s'amuser, il passait de l'oisiveté aux malices, des malices à l'insolence, et de l'insolence à la colère, lorsque sa mère lui refusait absolument un habit à pans pour ce semestre, quoique tous les autres garçons de son âge eussent déjà des pans. Certainement, si nous pouvions nous rappeler cette première amertume qu'augmentaient à cette époque nos conjectures confuses et notre singulière manière de comprendre la vie, nous ne traiterions pas si légèrement les chagrins de nos enfants. « Miss Maggie, il faut descendre à la minute !» dit Kezia en entrant à la hâte dans la chambre. « Seigneur, qu'avez-vous fait ?»« Je n'ai jamais vu une telle horreur !»« Laissez-moi, Kezia !» dit Maggie avec colère. « Allez-vous-en » !»« Mais je vous dis, miss, qu'il faut descendre à l'instant !»« Votre mère l'a dit !» reprit Kezia en allant vers Maggie, en la prenant par la main pour la faire lever du plancher. « Allez-vous-en, je ne veux pas dîner !» dit Maggie en résistant. « Je n'irai pas !» « Oh bien, je ne puis rester, il faut que je serve à table !» dit Kezia en sortant. « Maggie, petite nigaude !» dit Tom en mettant le nez à la porte 10 minutes après. « Pourquoi ne viens-tu pas dîner ?»« Il y a une quantité de bonnes choses, et maman dit que tu dois venir. Pourquoi pleures-tu, petit enfant ?» Oh, c'était horrible. Tom était si dur et si indifférent. Si c'eût été lui qui eût ainsi pleuré, accroupi sur le plancher, Maggie aurait aussi pleuré avec lui. Puis il y avait ce dîner si bon, et elle avait si faim. C'était bien cruel. Mais Tom n'était pas tout à fait dur. Sans doute il n'était pas disposé à pleurer, et ne croyait pas que le chagrin de Maggie dût gâter son espoir de plat doux. Mais il s'avança, et mettant sa tête près de la sienne, il lui dit d'un ton plus bas et encourageant, « Ne veux-tu donc pas venir, Maggie ? Dois-je t'apporter un peu de pudding quand j'aurai mangé le mien, et un peu de flan ou autre chose ?» « Oui, » dit Maggie, commençant à trouver la vie plus supportable. « Très bien, » dit Tom en s'en allant. Mais il se retourna à la porte et dit, « Tu ferais mieux de venir. Il y a le dessert, des noisettes, tu sais, et du vin de prime vert. » Les pleurs de Maggie avaient cessé, et elle resta pensive quand Tom l'eut quittée. La bonté de Tom avait rendu moins vive sa souffrance, et les noisettes, avec le vin de prime vert, commençaient à exercer leur influence naturelle. Elle se leva lentement du milieu de ses mèches dispersées et descendit doucement l'escalier. Puis elle resta appuyée contre le cadre de la porte de la salle à manger, guettant de l'œil par la porte entr'ouverte. Elle vit Tom et Lucy avec une chaise vide entre deux, puis les flancs posés sur une table voisine. C'en était trop. Elle se glissa dans la salle et atteignit la chaise vide. Mais elle ne fut pas plus tôt assise qu'elle s'en repentit, et désira être de nouveau dehors. Madame Taleva poussa un léger cri en la voyant, et éprouva un tel saisissement qu'elle laissa retomber dans le plat la grande cuillère à jus, ce qui eut les conséquences les plus funestes pour la nappe. Kezia, n'ayant pas trahi les raisons du refus de Maggie, dans la crainte de donner une secousse à sa maîtresse au moment de découper, Madame Taleva n'avait pas cru à autre chose qu'à un accès de mauvaise humeur qui portait avec lui sa propre punition, en privant Maggie de la moitié de son dîner. Le cri de Madame Taleva fit tourner tous les yeux du même côté que les siens, et les joues et les oreilles de Maggie commencèrent à brûler quand l'oncle Glegg, un vieux monsieur à bonne figure et à cheveux blancs, dit « Tiens, tiens, qui est cette petite fille ? Mais je ne la connais pas. Est-ce une petite fille que vous avez trouvée sur la route, Kezia ?»« Vraiment, elle est allée se couper les cheveux elle-même, » dit Monsieur Taleva à voix basse à Monsieur Dean, en riant et très amusé. « Avez-vous jamais vu une petite commère comme celle-là ? » « Eh bien, petite demoiselle, vous vous êtes donné un air très amusant, » dit l'oncle Palette. Et peut-être il n'avait de sa vie fait une observation d'un effet aussi déchirant. « Fille, quelle honte !» dit la tante Glegg de son ton le plus élevé et le plus sévère de reproche. « Les petites filles qui se coupent les cheveux devraient être fouettées et mises au pain et à l'eau, et ne pas venir s'asseoir avec leurs oncles et leurs tantes. « Hé, hé !» dit l'oncle Glegg, pensant donner un tour plaisant à ce jugement. « Il faut l'envoyer à la prison, je pense, et on lui coupera le reste de ses cheveux pour les égaliser. « Elle ressemble à une bohémienne plus que jamais, » dit tante Palette de son ton de pitié. « C'est un malheureux sort, ma sœur, que la fille soit si brune, tandis que le garçon est si frais. J'ai peur que ça ne l'empêche de faire son chemin dans la vie, d'être si brune. C'est une méchante enfant qui brisera le cœur de sa mère, dit Madame Taleva, les yeux en pleurs. Maggie semblait écouter ce concert de reproches et de moqueries. Son premier mouvement fut celui de la colère, qui lui donna un pouvoir momentané de défi. Et Tom pensa qu'elle bravait tout cela, soutenu par la récente apparition du pudding et du flan. Sous cette impression, il lui dit à voix basse « Hein, Maggie, je te l'ai bien dit que tu la paierais. » Son intention était bonne, mais sa sœur fut convaincue qu'il se réjouissait de son ignominie. Alors sa force factice l'abandonna instantanément, son cœur se gonfla, et, se levant de sa chaise, elle courut à son père, cacha son visage contre son épaule et éclata en violents sanglots. « Allons, allons, ma fille, » dit le père en la consolant et l'entourant de son bras, « ne t'afflige pas. Tu as eu raison de les couper s'ils te tourmentaient. Ne pleure plus. Ton père prendra ton parti. » Délicieuses paroles de tendresse. Maggie ne les oublia jamais, ces moments où son père prenait son parti. Elle les garda dans son cœur et y pensa encore bien des années après, quand d'autres disaient que son père avait très mal agi à l'égard de ses enfants. Les chagrins de Madame Taleva semblaient, en cet instant, avoir atteint le point culminant où commence l'insensibilité. Elle ne fit aucune attention à l'observation de sa sœur, mais rejeta en arrière les rubans de son bonnet, et dans une muette résignation, elle servit le pudding. Avec le dessert vint l'entière délivrance de Maggie, car on dit aux enfants qu'ils pouvaient emporter leurs noisettes et leur vin au pavillon d'été, puisque le temps était si doux, et ils s'enfuirent au milieu des arbrisseaux du jardin, avec l'allégresse de petits insectes s'échappant de dessous le verre d'une loupe. Madame Taleva avait une raison particulière de les renvoyer. Maintenant que le dîner était terminé et que l'esprit de chacun était devenu libre, c'était le moment convenable de communiquer l'intention de Taleva au sujet de Tom, et il valait tout autant que celui-ci fût lui-même absent. Les enfants étaient habitués à ce qu'on parlât d'eux aussi librement en leur présence que s'ils étaient des oiseaux et ne dussent rien comprendre, lors même qu'ils tendaient le cou et prêtaient l'oreille. Mais dans cette occasion, Madame Taleva manifesta une rare discrétion, parce qu'elle avait récemment eu la preuve qu'il était aussi désagréable à Tom d'aller en pension chez un ministre que chez un constable. Madame Taleva soupirait en pensant que son mari ferait ce qu'il voulait, quoi que pût avancer Madame Glegg ou même sœur Palette. Mais au moins, elle ne pourrait pas dire, si la chose tournait mal, que Bessie eût cédé à la sottise de son mari sans la faire connaître à ses propres amis. « Monsieur Taleva, » dit-elle en interrompant la conversation de celui-ci avec Monsieur Dean, « voici le moment de parler aux tantes et aux oncles des enfants de ce que vous avez intention de faire à l'égard de Tom. » « Très bien, » dit Monsieur Taleva assez sèchement. « Je n'ai aucune objection à annoncer ce que je compte faire à ce sujet. »« J'ai décidé, » ajouta-t-il en regardant Monsieur Glegg et Monsieur Dean, « j'ai décidé de l'envoyer chez un Monsieur Stelling, un pasteur, là-bas à King's Lorton, un gaillard éminemment instruit, à ce que je comprends, qui le mettra au fait de beaucoup de choses. » Il y eut une bruyante démonstration de surprise dans la compagnie, telle que vous avez pu l'observer dans une congrégation de campagne, lorsque les gens entendent du haut de la chaire une allusion à leurs affaires de la semaine. Il était de même surprenant pour les tantes et les oncles de voir introduire un ministre dans les arrangements de famille de M. Taleva. Quant à l'oncle Palette, il aurait à peine pu être plus complètement étonné si M. Taleva eût dit qu'il allait envoyer Tom chez le Lord Chancelier. L'oncle Palette appartenait à cette race éteinte de riches fermiers anglais, lesquels, vêtus de bons draps fins, payaient des taxes et des droits élevés, allaient à l'église, mangeaient un meilleur dîner le dimanche, sans penser que la constitution britannique de l'église et de l'État eût une origine que l'on pût retrouver plus facilement que celle du système solaire ou des étoiles fixes. Il est triste, mais vrai, de dire que M. Palette avait l'idée la plus confuse de ce qu'était un évêque, le supposant une espèce de baron qui pouvait être ou n'être pas ministre. Comme le recteur de sa propre paroisse était un homme de grande famille et riche, l'idée qu'un ministre pût être maître d'école était trop éloignée de ce qu'avait jamais vu M. Palette pour qu'il pût facilement la concevoir. Je sais qu'il est difficile dans notre époque d'instruction de faire croire aux gens à cette ignorance de M. Palette, mais qu'il veuille bien réfléchir aux remarquables résultats que peut produire une faculté naturelle aidée de circonstances favorables. Et l'oncle Palette avait une grande faculté naturelle pour l'ignorance. Il fut le premier à donner essor à son étonnement. « Mais pourquoi faire allez-vous l'envoyer chez un pasteur » dit-il. « en clignant les yeux et regardant M. Clegg et M. Dean, pour voir s'ils donnaient quelques signes de compréhension. « Mais parce que les ministres sont les meilleurs instituteurs, d'après ce que j'ai pu apprendre, » dit le pauvre M. Taleva, qui, dans le labyrinthe de ce monde embarrassant, se rattachait à tout fil directeur avec grande promptitude et ténacité. Jacob, ce maître à l'académie, n'est pas un ministre, et il a été de peu d'utilité pour l'enfant. Aussi j'ai décidé que si je l'envoyais de nouveau en pension, ce serait chez quelqu'un de tout différent de Jacob. Ce monsieur Stelling, d'après ce que j'ai appris, est l'espèce d'homme qu'il me faut. J'espère que mon garçon ira chez lui à la mi-juin, conclut-il d'un ton décidé, en frappant sa tabatière et prenant une prise. Vous aurez à payer un fameux compte de semestre, et Taleva. Les ministres ont les idées élevées en général, dit M. Dean, en prenant une vigoureuse prise, comme il le faisait toujours quand il désirait conserver une position neutre. Quoi ? Est-ce que vous pensez que ce ministre lui enseignera à reconnaître un bon échantillon de froment à première vue, voisin Taleva, dit M. Glegg, qui aimait à plaisanter, et qui, s'étant retiré des affaires, sentait qu'il lui était non seulement permis, mais convenable d'envisager les choses du côté gai. Tenez, voyez-vous, j'ai un plan dans ma tête à l'égard de Tom, dit M. Taleva, qui fit une pause après avoir établi ce fait et éleva son verre. Eh bien, si l'on veut me permettre de parler, ce qu'on ne fait pas souvent, dit Mme Glegg d'un ton d'aigreur, je voudrais savoir quel bien il résultera pour ce garçon de recevoir une éducation supérieure à sa position. Mais, dit M. Taleva, s'adressant seulement à la portion masculine de l'auditoire, voyez-vous, j'ai décidé de ne pas élever Tom dans mon propre métier. J'ai mes idées à ce sujet depuis longtemps, et je m'y suis arrêté d'après ce que j'ai vu de Garnett et de son fils. J'ai envie de le mettre à quelque chose où il puisse entrer sans capitaux, et je tiens à lui donner une éducation qui le mette au niveau des procureurs et autres, afin qu'il puisse me donner une bonne idée de temps en temps. » Madame Glegg fit entendre un son guttural et prolongé, les lèvres pincées, puis sourit avec un mélange de pitié et de dédain. « Il serait beaucoup mieux pour certaines gens, dit-elle après cette note d'introduction, qu'il voulût se laisser les procureurs tranquilles. » « Est-ce qu'il dirige donc une institution, ce ministre, comme celle de Market Bewley ?» dit M. Dean. « Non, rien de ce genre, » dit M. Taleva. « Il ne veut pas prendre plus de 2 ou 3 élèves, et alors il n'aura que plus de temps à leur donner, vous savez. »« Ah, et son éducation sera plus vite faite. Ils ne peuvent pas apprendre beaucoup à la fois quand ils sont si nombreux, » dit l'oncle Palette, sentant qu'il commençait à comprendre ce sujet difficile. « Mais alors il exigera un prix plus élevé, je suppose, » dit M. Glegg. « Eh, simplement 100 livres par année, voilà tout, » dit M. Taleva, avec quelque orgueil de sa noble manière d'agir. « Mais aussi, vous savez, c'est un placement. L'éducation de Tom lui vaudra un capital. »« Eh, il y a quelque chose, » dit M. Glegg. « Bien, bien, voisin Taleva, il se peut que vous ayez raison. Quand la terre est partie et l'argent dépensé, il est bon d'être instruit, etc. » Je me rappelle avoir vu ces 2 lignes écrites sur une fenêtre à Buxton. Mais nous, qui n'avons point d'instruction, nous ferons mieux de garder notre argent, eh, voisin Palette. M. Glegg se frotta les genoux et parut très satisfait. « Monsieur Glegg, vous m'étonnez, » dit sa femme. « C'est très inconvenant à un homme de votre âge et de votre entourage. »« Qu'y a-t-il d'inconvenant, madame ?» dit M. Glegg en clignant de l'œil gaiement à la compagnie. « Est-ce mon nouvel habit bleu qui me va mal ?» « J'ai pitié de votre faiblesse, monsieur Glegg. Je dis qu'il est inconvenant de faire des plaisanteries quand vous voyez vos propres parents courir la tête baissée à leur ruine. »« Si c'est moi que vous avez en vue par là, » dit monsieur Taleva, tout à fait provoqué, « vous pouvez vous éviter la peine de vous tourmenter à mon sujet. Je puis diriger mes propres affaires sans déranger personne. » »« Mais à propos, » dit monsieur Dean, introduisant judicieusement une nouvelle idée, « maintenant que j'y pense, quelqu'un a dit que Wakeham allait envoyer son fils, le garçon contrefait, chez un ministre. N'est-ce pas, Suzanne ? S'adressant à sa femme. Je n'en saurais rien dire, certainement, dit Madame Dean, qui n'était pas femme à prendre part à une scène où volaient les projectiles. Eh bien, dit M. Taleva, parlant toujours plus gaiement, afin que Madame Clegg pût voir qu'il ne s'inquiétait pas d'elle, si Wakeham pense à envoyer son fils chez un ministre, « vous pouvez être certain que je ne ferai pas mal en faisant de même pour Tom. Wakem est le plus grand coquin que le vieux Harry ait jamais fait, et il connaît la mesure du pied de tout homme avec lequel il a affaire. Dites-moi qui est le boucher de Wakem, et je vous dirai où il faut prendre votre viande. » Mais le fils de Wakem, le procureur, est bossu, dit Madame Pallet, qui trouvait que toute l'affaire avait un air funèbre. Il est plus naturel de l'envoyer à un ministre. Oui, dit Monsieur Glegg, en donnant à l'observation de Madame Pallet une interprétation fausse mais plausible. Il faut considérer cela, voisin Pallet. Le fils de Wakem n'entrera probablement pas dans les affaires. Il en fera un rentier de ce pauvre garçon. Monsieur Glegg, dit sa femme d'un ton qui montrait que son indignation augmentait et la travaillait profondément, quoiqu'elle fût décidée à ne pas lui donner essor, vous feriez beaucoup mieux de retenir votre langue. Monsieur Tulliver ne tient nullement à connaître votre opinion ni la mienne. Il y a des personnes dans le monde qui savent tout mieux que personne. Eh bien, j'imagine que vous êtes de ce nombre, si l'on doit croire ce que vous dites, dit Monsieur Tulliver, recommençant à bouillir. Oh, je ne dis rien, dit Madame Glegg, d'un ton de sarcasme. On n'a jamais demandé mon avis, et je ne le donne pas. Ce sera la première fois, alors, dit Monsieur Tulliver. C'est la seule chose que vous soyez toujours trop disposé à donner. J'ai été trop disposé à prêter, alors, si je ne l'ai pas été à donner, dit Madame Glegg. Il y a des gens à qui j'ai prêté de l'argent qui me feront peut-être repentir de l'avoir fait, même pour des parents. Allons, 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 dit Monsieur Clegg pour la calmer. Mais Monsieur Tulliver ne put retenir sa réplique. Vous avez un billet, je suppose, dit-il, et vous avez votre 5%, parenté ou non. Ma sœur, dit Madame Tulliver en intervenant, buvez votre vin et prenez des amandes et des noisettes. Bessie, j'en suis fâché pour vous, dit Madame Glegg, avec un sentiment tout semblable à celui d'un chien hargneux qui saisit l'occasion de diriger son aboiement contre l'homme qui ne porte point de bâton. C'est un pauvre sujet que de parler amandes et raisins. De grâce, sœur Glegg, ne soyez pas si querelleuse, dit Madame Pallet, en commençant un peu à pleurer. Vous pouvez être prise d'une attaque, en devenant si rouge après le dîner. Et songez que nous ne faisons que de quitter le deuil, toutes tant que nous sommes, et ayant toutes porté des robes garnies de crêpes. C'est très mal entre sœurs. Je croirais effectivement que c'est très mal, dit Madame Glegg. Les choses en sont venues à un joli point, qu'une sœur en invite une autre chez elle pour la quereller et l'insulter. Doucement, doucement, Jane, soyez raisonnable, dit Monsieur Glegg. Mais, tandis qu'il parlait, Monsieur Tulliver, qui n'avait point encore suffisamment satisfait sa colère, éclata de nouveau. « Qui est-ce qui pense à vous chercher dispute? C'est vous qui ne pouvez laisser les gens tranquilles et qui grondez toujours. Je ne chercherai jamais dispute à aucune femme si elle gardait sa place. »« Ma place, vraiment, dit Madame Glegg en devenant toujours plus aigre. Il y a des personnes qui valaient mieux que vous, Monsieur Tulliver, qui sont mortes et dans leur tombe, et qui m'ont traité avec un autre respect que vous ne le faites. » Quoique j'aie un mari qui peut rester assis et me voir insulté par ceux qui n'en auraient jamais eu l'occasion s'il n'y avait eu dans notre famille des filles qui se sont mariées plus mal qu'elles ne l'auraient dû le faire. Si vous parlez de ça, dit Monsieur Tulliver, ma famille est aussi bonne que la vôtre, et meilleure, car aucune femme d'un aussi mauvais caractère que vous n'en fait partie. Bien, dit Madame Glegg en se levant de sa chaise. Je ne sais pas, Monsieur Glegg, si vous pensez que ce soit une belle chose que de rester là, à m'entendre invectiver. Mais je ne demeurerai pas une minute de plus dans cette maison. Vous pouvez rester et revenir avec le cabriolet, je m'en irai à pied. Cher ami, dit Monsieur Glegg, d'un ton mélancolique, suivant sa femme hors de la chambre. Monsieur Tulliver, comment avez-vous pu parler ainsi? Dit Madame Tulliver, les larmes aux yeux. Laissez-la partir, dit Monsieur Tulliver, trop enflammé pour être calmé par les larmes. Qu'elle parte! Le plus tôt sera le mieux. Elle n'essaiera pas de sitôt de vouloir me dominer. Sœur Pallet, dit Madame Tulliver, désespérée, pensez-vous que vous puissiez réussir à l'apaiser en courant après elle? Il vaut mieux ne pas le faire, dit Monsieur Dean. Vous arrangerez ça un autre jour. Alors, mes sœurs, irons-nous voir ce que font les enfants? Dit Madame Tulliver, en essuyant ses larmes. Aucune proposition ne pouvait venir plus à propos. Monsieur Tulliver se sentit soulagé, comme si l'air était débarrassé de mouches bourdonnantes, une fois que les femmes furent hors de la chambre. Il n'aimait rien tant qu'une causerie avec M. Dean, dont l'application assidue aux affaires lui permettait rarement ce plaisir. Il considérait M. Dean comme l'homme le plus capable de son entourage et comme ayant de plus une facilité de langage qui suppléait agréablement à la sienne. Maintenant que les Danes étaient loin, il pouvait causer sérieusement, sans crainte d'interruption frivole. Ils pouvaient échanger leurs idées au sujet du duc de Wellington, sur le caractère duquel sa conduite dans la question catholique avait jeté une lumière entièrement nouvelle. Ils pouvaient parler de sa tactique assez gauche à la bataille de Waterloo, qu'il n'aurait jamais gagnée s'il n'avait eu une grande quantité d'Anglais derrière lui, sans parler de Blücher et de ses Prussiens, qui, ainsi que l'avait entendu dire M. Taillevard par une personne qui avait une connaissance particulière de ce sujet, était arrivé juste à point. Il y avait cependant à ce sujet une légère divergence entre eux. M. Dean remarquant qu'il n'était pas disposé à avoir très bonne opinion des Prussiens. La construction de leur navire, ainsi que le caractère peu satisfaisant de leurs transactions à l'égard de la bière de Danzig, le portant à avoir, en général, des idées peu favorables sur ce que pouvaient faire les Prussiens. Presque battu de ce côté, M. Taleva en vint à exprimer ses craintes que le pays ne pût jamais redevenir ce qu'il avait été. Mais M. Dean, attaché à une maison de commerce dont les revenus augmentaient, avait naturellement meilleure opinion du présent. Il avait quelques détails à donner sur l'importation, surtout en fait de cuir et de zinc, qui tranquillisèrent l'imagination de M. Taleva, en renvoyant à un avenir éloigné l'époque où le pays serait entièrement la proie des papistes et des radicaux, et où il n'y aurait plus de bonnes chances pour les honnêtes gens. L'oncle Palette était assis et écoutait avec des yeux clignotants ses sujets relevés. Il ne comprenait pas la politique par lui-même. Il pensait que c'était un don naturel. Mais de ce qu'il put en tirer, il lui parut que ce duc de Wellington ne valait guère mieux qu'il ne fallait.